ont des parkings facilement accessibles. Pour plus de renseignements, contactez leur site internet. Alors, bonnes vacances à tous.
Merci Sylvie. Gertrude, les événements gratuits, je crois.
Oui, tout à fait.
Mais comme tout le monde se serre la ceinture, je vous propose des escapades gratuites au cours de cet été, tout en restant en Normandie. Les Normands ont du mal à croire que notre belle région est fraîche. Notre belle et fraîche région est très prisée par les vacanciers amoureux de la nature et à la recherche de la fraîcheur. Il faut qu'on soit fiers. C'est pour cela qu'on n'est pas obligé d'aller trop loin. Il y a tout ce qu'il faut près de chez nous. Des promenades, seules ou en famille, des spectacles différents. Je vous conseille d'aller sur le site, le comptoir des loisirs, et vous trouverez tout ce qu'il faut. Moi, j'en ai pioché quelques-unes. Par exemple, une balade en famille de 4 km à Arnières-sur-Iton. Fontaine-sous-Jouy avec sa forêt classée en espace naturel sensible. En descendant dans la vallée, vous pourrez même contempler les ruisseaux avec une eau d'une transparente exceptionnelle. Cela vous plongera dans les années 1900 où Paris avait réservé ce site pour son approvisionnement en eau. Cela n'étonne pas. Ça m'étonne pas de voir que les truites élevées à côté ont été médaillées d'or. Mais si cela vous enchante, vous pouvez faire une petite pause aux étangs, juste à côté pour un petit goûter ou un petit repas, parce que là-bas, ils proposent une cuisine très délicieuse, abordable, avec des produits locaux. Vous pouvez aussi faire un petit circuit à pied, seul, en famille aussi, ou en groupe, par exemple sur les coteaux de Saint-Michel, la forêt de la Madeleine avec ses 17 mares, la ferme de Navarre pour même les plus petits, mais pour les courageux, vous pouvez aller aux Andelys, sur le mont Puvin, dans 9 km. Mais pour l'avoir fait, il faut être bien armé. La nature, elle est magnifique. La vue sur scène était exceptionnelle, mais ça se mérite quand même. Il y a des spectacles très organisés dans l'agglomération. Donc, par exemple, le 4 juillet à 15h, à l'église de Normanville, il y a un spectacle et puis un goûter qui s'ensuit. Vous pouvez aussi aller sur le site de la naturedansl'heure.fr où vous trouverez plein de choses. Par exemple, le 3 juillet à 21h, à Giverny, il propose la danse de chauve-souris. Le 11 juillet à 9h30, il y a les écailles de la ronce. C'est une balade à la recherche de ces sentinelles de la biodiversité. C'est l'occasion de ne plus craindre les serpents, les mal-aimés. Je suis le mal-aimé, je suis le mal-aimé.
Merci Gertrude. Eh bien, écoutez, avec tous ces bons plans là, on va passer un bel été, j'espère. Notre émission se termine. Avez-vous voyagé avec nous ? Bien, votre passé sera ce que vous ferez de votre présent aujourd'hui. Donc, faites-vous des souvenirs pour votre futur. Dans 30, 40 ou 50 ans, la société aura encore plus changé que ce que nous avons, baby boomers, vécu. C'était la minute philosophique et elle est terminée. Merci à nos gentils reporters et à Damien pour la technique. Passez de bonnes vacances, si vous pouvez, à tous. Faites attention à vous, la chaleur, la route, les loisirs. On vous dit à la rentrée avec d'autres sujets frais et dispo. Au revoir.
D'une émission de principe actif. Une rediff.
Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crayons petits bourgeois de la bonne santé.
Tu cherches un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres? Non.
Non, non.
Non, non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Tu mettez le poil au promenade?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Cette galère me tient au cœur.
histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Et bienvenue dans votre numéro du mois de juillet, j'ai bien dit juillet, de Scène de vie, vie de scène, une émission réalisée en coproduction entre le Tangramme et Principe Actif et qui a pour objet de vous parler de spectacles vivants. Mais avant tout pour moi, la joie de retrouver Nat et Caro au micro. Bonjour.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Au sommaire de cette émission du mois de juillet, j'insiste sur ce mois de juillet parce qu'on a cette chance cette année d'avoir un vendredi tout début juillet avant les vacances scolaires qui nous donne la possibilité de faire un numéro supplémentaire de Scène de vie, vie de scène. Un vrai bonheur pour nous en fait, tout simplement. Au sommaire de cette émission, eh bien, ça nous donnera l'occasion de regarder un petit peu en arrière sur le mois qui s'est écoulé.
Oui, nous parlerons anthropocène avec un retour sur les anthropocènes du Tangramme. Donc Caro nous fera un retour sur ce qui s'est passé, les événements majeurs, les anecdotes.
Vaste programme.
Mais nous ne ferons pas que regarder en arrière car nous regarderons également en avant.
Avec notamment Caro. Mais,
puisque notre présentation de saison a eu lieu mercredi dernier, moi je voulais faire un petit peu un focus sur la convivialité et quelques points qu'il me semble incontournable de marquer d'une petite gommette rose.
Ah bah oui, une petite gommette rose parce que nous parlerons également des journées du matrimoine.
Et oui, qui seront à venir en septembre.
Comme
tous les ans, au moment des journées du matrimoine. Voilà.
Nous ferons un tour non exhaustif de l'agenda qui nous attend pour ces beaux jours. Nous terminerons avec le traditionnel extrait de film dont Nathalie nous dira rien parce que c'est du suspense, c'est comme ça. Nous aussi, on fait les grandes méthodes.
Des grands teasings.
Voilà, on fait du teasing, nous aussi. Mais tout de suite, sans plus attendre, commençons par une autre de nos traditions, le son d'ambiance.
Bon, pour moi, il n'y a rien pour garder que s'il y a faux, il y a vrai. Mais tout ça, c'est vrai. Parce que la vie, c'est dire, c'est toi, tu vois. C'est dire, c'est moi. La vie, c'est dire. Mais la vie, c'est belle.
Ah, ouais.
Là, c'est belle comme s'il y a des soleils, il y a de tout, il y a des vies. Mais c'est belle comme je travaille. La vie, c'est belle. Avant, la vie, c'est dire. Parce que je ne travaille pas. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de maison. Mais maintenant, je travaille. Il y a des maisons, il y a de l'argent, j'ai touché de l'argent. La vie est belle.
Alors JC, dis-nous tout. Où as-tu laissé traîner ton micro ?
Alors mon micro ne traînait pas vraiment. Hein. On a carrément installé un studio. C'était vendredi, je suis en train de chercher la date. Ça devait bien être le 24, 25, 26, 27. Je ne sais pas, un vendredi en tout cas, qui avait 26. Un numéro comme ça. 26, numéro 26. Alors il avait ce vendredi. Nous étions à Idévert, du côté de... Enfin, pas du côté, à Val-de-Reuil, précisément. Et c'était l'Assemblée Générale de l'association Idévert, avec lesquels nous avons des liens, bien entendu, Idévert, Idévette et Principe Actif, bon, on se connaît bien quand même. On défend certaines valeurs communes et notamment nous échangeons autour de la question des chantiers d'insertion. Ce sont des contrats spécifiques de 2 ans qui, en plus du travail, proposent un accompagnement socio-professionnel. Socio-professionnel, ça veut dire sur la formation, sur l'employabilité à la fin de ces 2 années de contrat, mais aussi un travail sur tous les freins qui sont liés à l'emploi. Parce que on l'entend parfois que bah, il suffit de donner un boulot pour que tout aille bien. C'est pas tout à fait le cas, c'est pas toujours la réalité. Parfois il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle, la barrière de déplacement, de mobilité, d'hébergement, de garde d'enfants, voilà, tout un tas de freins qui existent avant de pouvoir accéder à l'emploi. Chez Idévert comme chez Idévette, ce sont des chantiers d'insertion comme Cicérone, hein, d'ailleurs il y en a bien d'autres, des chantiers d'insertion. C'est un chantier d'insertion qui prend la personne en globalité et qui l'amène d'un point A un point B qui normalement est plus proche de l'employabilité quand on arrive au point B. Il y a deux ans ils ont deux ans devant eux, ce contrat en deux ans, le boulot doit être fait sur ces deux années. Et alors on a eu l'occasion d'échanger sur tous ces éléments-là. D'ailleurs l'émission est retrouvable en podcast sur le site de Principe Actif et on vous invite très vivement à écouter cette une heure et demie d'émission qui développe bien le sujet. Et là ce que vous avez entendu c'était le témoignage de travailleurs sur qu'est-ce que ça faisait entre le point de départ, le point A, où l'employabilité est très modérée, et le point B, à l'issue d'un parcours chez IDVR, comment on se projette dans l'avenir et comment on parle d'emploi dans un milieu plus ordinaire. Voilà, c'était une émission passionnante dont j'invite les auditeurs à aller écouter en intégralité dans les podcasts. C'était dans émission extérieure, émission idées vertes, et puis voilà quoi. C'est comment découvrir aussi ce milieu du travail un peu particulier. Je vous propose qu'on parte en première pause musicale, si ça vous va.
Et je crois que c'est une pause musicale de ton choix.
Ah ouais, alors oui.
Allez.
Emeline, j'en dis deux mots là, comme ça on enchaînera juste après. C'est Emeline, tout court, qui fait des chansons qu'on pourrait appeler à texte, du haut de son féminisme, vient régulièrement travailler le contenu. Le choix du morceau, c'est La Main Droite, extrait d'un live. Et vous comprendrez pourquoi Emeline, tout court, fait partie des artistes que nous aimons à Principe Actif.
Tu me rends dingue, j'en ai la chair de poule. Quand je te vois, j'ai la tête qui tourne. Tu prends toute la place dans mes idées et tout se retourne. Je deviens comme une folle, comme un soldat. Et j'ai tout plein de petits trucs vivants dans mon estomac. Tu m'as laissé dubitative au début, maintenant je sais que je t'aime pas. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de taper parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de taper parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Dommage vraiment, mais ça ne prend pas. Difficilement séduite par les insinuations sur ta. T'en parles beaucoup, t'es un bon coup, c'est bien. Je m'en fous. Ah, pardon, maintenant que j'ai dit non. Je suis plus tellement sexy, en fait, je suis carrément un gros ton mal baisé. Mais oui, sans doute, j'ai raté une occasion dans le doute, tant pis. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Ça y est, c'est l'heure des insanités. Féministe, c'est la pire insulte que t'aies trouvée. Va falloir penser à revoir ton vocabulaire ordurier. T'as l'air tendu, mais ça va passer. Courage mon chou, tu n'es pas un cas désespéré. Fais comme moi, embrasse des garçons, ça aide à décompresser. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes, en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me chauffe. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érige et tu pourras t'en occuper avec ta main gauche.
Emeline, tout court, avec le titre Main droite. A priori, ça marche aussi avec la main gauche. Nous avançons dans cette émission. Et nous l'avait promis durant le sommaire de Scène de Vie, nous allions revenir sur le festival Les Anthropocènes qui a duré quasiment un mois et qui a proposé tout un panel de spectacles, de conférences, de projections, d'ateliers, de participation pour des plus jeunes au plus grand. En quelques mots, Caro, comment ça s'est passé, ce festival, toi qui l'as vécu de l'intérieur sur toute la durée?
Ça s'est passé chaudement, hein. On ne va pas déroger à la règle, sauf qu'on était en fait en mois de mai, donc c'était très précoce et ça s'est passé très joyeusement. C'était un festival où on a sillonné vraiment tout le département et même plus la région,
et où on a eu des spectateurs, on a eu plus de 10 000 spectateurs quand même, ce qui est super. Beaucoup.
Ce qui est très loin d'être rien.
Super, et là où on a été extrêmement, j'allais dire, ému, touché et porté par les gens qui nous ont suivis, c'est que en dépit des conditions climatiques, en fait, le public était là et dans toutes les manifestations, que ce soit dans un spectacle en plein air avec la Renarde à l'Arboretum d'Harcourt ou alors à Gravigny, que ce soit pour toutes les conférences avec lesquelles on a affiché quasiment complet à chaque fois, qui avait lieu à l'auditorium du Cadran et pour une directement dans la grande salle du Cadran, et on a eu plus de 400 personnes, que ça a été pour pour les spectacles aussi qu'on a accueillis.
Le public s'est vraiment constitué sur ces anthropocènes.
Oui, et c'est un public qu'on commence à identifier, c'est la 5e édition cette année, c'était notre 5e édition, et on a un public identifié en fait, qu'on retrouve d'année en année, qui n'est pas forcément un public qui nous suit sur des propositions artistiques scène nationale, mais qui est un public intéressé par les questions d'environnement, des questions d'anthropocène, j'allais dire, mais bon, le titre...
Tout est dit dans le titre.
Et aussi... par d'autres façons d'aborder un quotidien ou la réalité, et c'est un public extrêmement ouvert. Je pense en cela, cette année on a accueilli Jan Erling, qui est donc un des représentants du peuple Sami, suite à la projection du film John face au vent de Corto Fajal, et il y a vraiment des grands échanges entre le public et puis John et Corto, justement par rapport non seulement à l'incidence des conditions climatiques dans leur pays, puisque eux, ils sont famille, j'allais dire tribu, c'est pas juste. Leur famille, leur grande communauté, en fait, est plutôt dans la Suède. Les Samis se partagent entre la Norvège, la Suède, l'URSS et le Danemark, et eux, ils sont principalement situés en Norvège. Donc, il y a évidemment des conditions climatiques qui changent considérablement le travail de nomadisme avec les rennes, qui sont les seuls animaux qui ne sont pas domesticables. D'habitude, quand il y a des migrations comme ça et des changements, c'est les hommes qui guident les animaux vers d'autres terres, et là c'est en fait les hommes qui suivent les rennes vers d'autres terres, et voilà. C'était intéressant parce que du coup ça nous a permis de découvrir aussi que la modernité pouvait se mettre au service d'une pratique ancestrale, et que l'un n'était pas incompatible avec l'autre, sauf quand c'est fait intelligemment. Donc voilà, c'était...
Ça vient questionner très directement nos pratiques humaines, en fait, plus largement que juste sur un peuple.
Oui,
c'est ça l'objet aussi du... Pardon, je te surprends avec mes questions, mais je voulais en arriver au fait que, à travers ces rencontres, ces exemples, on va dire, d'intelligence naturelle même, de suivre le troupeau, de mettre en place les technologies pour faciliter, mais tout en intelligence, ça vient questionner très directement toutes nos pratiques, j'ai envie de dire occidentales, mais même mondiales, quoi.
Oui, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce que John disait très bien, c'est que les Samis, ils ont continuellement été amenés à s'adapter. C'est-à-dire que c'est pas dans une protection, c'est jamais, ils sont jamais dans la complainte, c'était mieux avant, où on a réduit notre territoire, ce qui est un fait, puisque ils se battent quand même contre des gros trusts qui veulent mettre et des puits des forages de pétrole et des éoliennes, enfin des choses qui rétrécissent petit à petit cette terre dont ils ne sont pas propriétaires, mais dont ils sont garants de la bonne santé. Et c'est là où tout achoppe, c'est comme ils n'en sont pas propriétaires, les États veulent, et les grandes multinationales veulent s'approprier un territoire qui est un territoire préservé, en se disant qu'il y a encore plein de richesses dessus, et c'est toute la complexité en fait de la chose. Et donc ils travaillent sur une vraie... ils travaillent pas, ils sont dans l'adaptation permanente. Et donc la question du monde moderne, en fait, c'est plus une question presque philosophique de qui je suis sur cette planète et quel est mon rôle sur la planète. Est-ce que je suis plutôt dans un dans une logique capitaliste, c'est ma chose, je défends mon bout de territoire, je revendique, je plante mes petits drapeaux et je revendique des droits, ou est-ce que je suis juste un passeur parmi la longue chaîne humaine avant moi et qui aura lieu après moi, et garant du bon état d'une chose à un moment. Et ça, c'est quand même une vraie philosophie de vie qui peut interpeller, et extrêmement pragmatique. Hein.
Alors ça, c'est la rencontre qui a été marquante, qui a été centrale quand même sur les anthropocènes.
Pas que, les pas scientifiques que... ont été, alors justement, les rencontres scientifiques ont été vraiment très très fortes aussi.
C'est là où je voulais en venir, donc il y a eu cette rencontre. Tu veux attraper quoi, les notes?
Voilà,
ah,
si
dans
on
le programme,
parle...
bah oui. C'est mieux. Mais tant qu'à faire. Alors pour les auditeurs, on est en train de rattraper nos documents qui sont étalés sur la table.
Qui sont étalés sur la table.
Donc tu l'évoquais, il y a la rencontre du peuple Sami à travers John qui était le John comment dit
John
Erling qui était le représentant sur les anthropocènes.
Ouais.
Il y a eu d'autres rencontres et tu l'évoquais. Quand on parle d'anthropocène, il y a un aspect qui est l'aspect scientifique qui est essentiel et central. Et tu disais là à l'instant que les échanges avec les scientifiques avait été extrêmement forte également.
Tout à fait, en apportant différents points de vue. Et d'ailleurs, la force de la programmation cette année, c'est que tous les scientifiques n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et ça, c'est quand même... ça prête à débat, donc ça, c'est toujours intéressant. Mais je pense que la grande star, on peut dire, c'est Audrey Dussautour quand même, qui était venue l'année dernière avec le Blob et qui est venue pour deux conférences cette année. Une sur les fourmis, puisque c'est un de ses domaines de recherche. Et l'autre, je ne sais plus, sur les champignons, je crois.
Ah oui.
Et elle a cette façon extrêmement punk rock, bien tonifiante, de communiquer un savoir et des recherches extrêmement pointues. Et les gens sont juste, on est tous accrochés à sa parole. Là, c'est accessible pour tous. D'ailleurs, elle a fait des rencontres aussi, deux rencontres avec les plus jeunes un lundi sur le temps scolaire. Mais autrement, oui, c'est vraiment extrêmement intéressant. En fait, ce qui est intéressant avec la venue de tous ces scientifiques, même quand ils sont pas très à l'aise, parce que c'est pas leur métier de venir parler de ce qu'ils font au public, ça déplace toujours en fait le regard et la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori on se dit, oh, moi je suis pas trop scientifique, on se dit, je me dis, moi en tant qu'individu.
Non mais on peut se le dire, on peut tous se le dire.
C'est pas ma tasse de thé, et en fait on se retrouve à apprendre des choses incroyables. Par exemple, la cuisine du néolithique, c'est hyper intéressant de voir comment on peut même penser à faire des recherches sur ce que le néolithique mangeait à partir de recherches archéologiques, enfin voilà, et anthropologiques, c'est toujours extrêmement fort.
On rappelle la thématique de ces anthropocènes, c'était le lien entre le sauvage et le domestique. Et moi, je me souviens quand nous avons invité Valérie Baran pour présenter le festival, où il y avait justement mentionné cette conférence sur les fourmis, qui était un insecte qui élevait et donc domestiquait les pucerons. Et donc c'était au sein même de l'écologie, on va dire de la nature, il y avait ce rapport en fait d'utilisation.
De domestiquer.
De domestication propre au règne aussi animal. Donc c'était des schémas de survie d'une espèce. Et on sait que les fourmis, c'est une des espèces les plus résistantes sur la Terre et pour l'après. Qui ont développé toutes sortes de fonctionnements et de mécanismes pour pouvoir survivre à plein de conditions.
Alors, excuse-moi, Caro, on met les marques. C'est la saison 2027, c'est ça que tu me montres ?
Oui.
C'est ça. Alors, moi, juste avant d'aller sur cette saison 2027, parce qu'elle s'annonce déjà, sur ces anthropocènes, il y avait ce parallèle aussi avec l'artistique tout de même. Parce que là, on a parlé des témoignages, on a parlé de la science, des conférences, des projections. Mais il y avait ce regard artistique qui vient, j'ai envie de dire, en interaction avec la science, avec le témoignage également. Et ça aussi, c'est l'ouverture à la réflexion.
Tout à fait. On a eu plusieurs spectacles, évidemment, on en avait parlé, mais il y en a plusieurs qui m'ont frappé. Il y avait le Monarque d'Emmanuel Mérieux avec ce train de migrants qui remonte toute l'Amérique latine versus la migration des papillons monarques qui partent du Canada et qui font toute la trame. Là, c'était une proposition plastique extrêmement intéressante, mais on a eu surtout une représentation en forêt, le spectacle d'Alice Carré Écorce. Dans des conditions où on a dû rappeler les spectateurs en disant « Attention, dans la forêt d'Évreux, il y a des chenilles processionnaires, ne vous appuyez pas contre les arbres », avec des comédiens qui ont répété une semaine. C'était un spectacle qui avait été monté en salle et pensé pour être en deux versions, une version salle, une version plein air. Nous, on accueillait les premières représentations de la version plein air et les comédiens ont répété une dizaine de jours en pleine forêt d'Évreux, pas loin du parking de la Trémouille, où certains avaient peur des insectes. Alors, ils n'étaient pas très à la joie. D'autres ont été piqués par les chenilles processionnaires, ce qui nous a amené à contacter l'ensemble du public, mais tout le monde était au rendez-vous. Et en niveau technique, on a dû casser deux chariots, trouver une brouette pour transporter le son. Enfin, c'était quelque chose d'un peu épique et qui était absolument magnifique en forêt.
C'est une expérience tant au niveau du spectateur finalement qu'au niveau de la compagnie, qu'au niveau des équipes techniques, au niveau de tout le monde. Finalement, ça devient une expérience aussi.
Ça devient, oui, un morceau de vie extrêmement intense.
Et ça doit faire réfléchir assez pratique justement de création, de mise en scène, montage technique. Ça réinterroge tout ça aussi quand on le fait en pleine nature.
Ouais, c'était écrit pour. Hein, ouais. C'est Alice qui a écrit le texte, qui l'a mise en scène. Donc elle y a longuement songé, mais c'était extrêmement réussi.
Mais je pense aussi, tu disais, Caro, on a cassé quand même trois chariots, c'est-à-dire que voilà, faire un spectacle en pleine forêt, en mettant de la technique, comment on s'y prend ? Voilà, quelle solution on va trouver pratico-pratique pour pouvoir acheminer ce matériel dans des coins pas forcément. Est-ce qu'on ramène la mule ? Est-ce qu'on ramène le dos d'âne ? Enfin, c'est tout ça qu'on réinterroge, oui, en fait.
Et aussi, où on positionne les bouteilles d'eau, et on avait acheté des grosses bonbonnes pour le public en se disant si les gens ont besoin de boire ou s'il y a des malaises. Et en fait, nos grosses bonbonnes, eh bien, on n'a pas pu les utiliser parce que pas assez mobiles d'un spot à l'autre. Il y avait 11 stations dans la forêt pour suivre l'histoire. Donc les gens se déplaçaient dans la déambulation. Et c'est vrai que, voilà, il y a plein de petites choses à penser qui ne sont pas forcément évidentes.
Ce festival, tu le disais, à 10 000 spectateurs, c'est encore une belle réussite signée sur les Anthropocènes, ce qui nous amène à, il y aura des Anthropocènes de 2027.
Oui, et surtout, on a remarqué que toutes les conférences et toutes les projections, puisqu'on a un partenariat avec Libé, avec Arte, avec Paris Science, enfin avec plusieurs grandes structures, beaucoup de choses étaient gratuites. Et l'affluence ne s'est pas démentie, c'est sur inscription évidemment, puisque l'auditorium ne contient que 200 spectateurs, pas plus. Et la fréquentation a été constante. Et du coup, cette année, on a décidé, avec notre partenaire Génération Durable, dont le festival est en octobre, avec Paris Science, d'inaugurer en fait des projections de films documentaires qu'on aurait pu retrouver dans un de nos festivals, dans une de nos éditions, tout au long de l'année. Et on propose généralement, on va en avoir deux cette année, et on va le proposer justement aux spectateurs intéressés par la question de voilà, de l'écologie et de ce qui se passe un peu sur la planète. Il y en a un qui s'appelle Le Renard qui a sauvé son île, qui est de Emma Baos et qui a gagné plusieurs prix. C'est un film de 52 minutes qui sera diffusé donc en octobre, au moment de Génération Durable. Et on va diffuser après un autre film documentaire, là, qui n'aura rien à voir avec Anthropocène, mais par contre qui suit cette logique de diffusion, qui est nommé Fantastique et qui est relié à l'un des spectacles que l'on accueille, qui s'appelle Yongo Yeli, mais ça je vous en dirai un peu plus en deuxième partie.
Très bien, ça du teasing, on est
fou. Un autre truc, parce que c'est pas fini, avec Paris Science, il y a un concours qui est organisé dans toutes les écoles de région parisienne, c'est de la primaire au lycée, et il y a toute une sélection de films documentaires qui sont proposés au visionnage à certaines classes, et ils élisent en fait par niveau le film.